Europe 1.
Aujourd'hui, un salarié sur trois déclare avoir été victime de harcèlement au travail. Les plus touchés par cette situation sont en majorité les jeunes employés, mais aussi les femmes. Remarques sexistes, harcèlement moral ou sexuel, leur emploi a transformé leur vie en un véritable enfer. Face à ces violences, certaines employées ont trouvé le courage de parler et parfois même de déposer plainte au risque de perdre leur travail. Comment dénoncer un harceleur parfois très haut placé? Comment affronter sa hiérarchie et comment se relever après ces violences? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Laurence. Cette mère de famille a pris de très gros risques pour obtenir les preuves du harcèlement que lui faisait subir son patron. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, soyez les bienvenus. Laurence, bonjour.
Bonsoir.
En 2009, Laurence travaillait depuis un an comme responsable administrative lorsqu'un changement dans sa vie privée l'a mise en situation de fragilité. Cette année-là, elle et son mari divorcent et Laurence déménage, se retrouvant seule avec son jeune fils. Quand tout cela arrive aux oreilles de son supérieur, celui-ci change radicalement de comportement.
Avant le divorce, c'était quelqu'un qui était colérique, pas facile à vivre, mais il n'avait jamais traversé cette frontière. Il n'a jamais passé de l'autre côté. Et en fait, c'est vraiment... Lorsque j'ai pris mon appartement, c'était flagrant. Quelques temps après, il me proposait d'aller boire un verre pour me changer les idées, etc. D'aller dîner avec lui. Donc, à chaque fois, je refusais. Hein. De toute façon, il était hors de question. Ou alors, je précisais, parce que je connaissais sa femme, donc je précisais que, à la rigueur, je pouvais aller dîner avec sa femme et lui, mais que tous les deux, il n'y avait aucune raison que je le fasse et que j'allais très bien et que je n'avais pas besoin d'aller boire un verre avec lui.
Malgré les refus répétés de Laurence, l'homme ne change rien et poursuit ses tentatives. Pendant un an, ses demandes de plus en plus explicites mettent la pression sur son employé, extrêmement mal à l'aise dès qu'elle se trouve en sa présence.
Je lui dis non, il fait « Ok, d'accord, j'ai compris ». Et 3 jours après, il revient. Et là, il a peut-être pas compris. Donc on réexplique, on dit non. Ok, d'accord. Et puis 3 jours après, il revient.
Quel type de réflexion vous faitiez là?
Moi, il me demande carrément depuis combien de temps j'avais pas couché avec un homme, par exemple. Il m'appelle dans son bureau et il se colle à moi. Si je pose ma main, etc., on travaille sur un truc, il va poser sa main contre la mienne, il se lève, il me caresse le dos, les cheveux, voilà. Et donc, il commence à comprendre, donc je ne souhaite plus y aller, donc ce qu'il fait, c'est qu'il vient me chercher, il m'oblige.
Il vous oblige donc
à aller dans son bureau, parce qu'on pouvait très très bien parler dans mon bureau, il n'y avait pas de souci. Il avait une chose aussi que c'était horrible. Il me défiait. Il voulait m'embrasser. Et donc, il se mettait en face de moi et il me regardait. Et donc, je le regardais. Et quand il faisait le geste, en fait, je baissais la tête et il m'embrassait le front. Et puis, une fois aussi, on préparait un repas pour nos clients, etc. Et on devait récupérer des tables et des chaises en haut. Donc je suis obligée d'y aller avec lui. Et donc, il me fait passer devant et il me touche le bas du dos, etc. Et je dis, ça suffit, c'est stop. Et il me fait, vous n'allez pas faire comme l'affaire DSK.
Qu'est-ce qu'il entendait par là, à votre avis?
C'est-à-dire dénoncer. Donc, il était vraiment conscient que, voilà, ce qu'il faisait, c'était vraiment pas acceptable. Et une fois aussi, il a insisté plusieurs fois, je veux vous voir et ce soir, je passerai chez vous. Sinon. Et il était 20h, et bien quelqu'un a sonné chez moi. Et ça ne pouvait être que lui. Donc on vit sur les nerfs tout le temps. Et bien c'est ça quoi, en fait.
On est tétanisé?
Tétanisé, oui. Ah. C'est-à-dire, par la force des mots, parce qu'il vous envoie comme ça, et surtout par le fait qu'il n'enregistre pas, qu'il ne souhaite pas accepter le non. Et ça, c'est juste incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est pas de la drague, justement. Il impose quelque chose. Et à force de te le dire, tu diras oui un jour. Voilà, c'est tout. Je t'aurai à l'usure. je serai plus fort que toi et j'arriverai à t'avoir. Et puis, de toute façon, plus j'impose mes refus, et plus il devient méchant, en fait. Il me domine parce que je me sens en danger financièrement et je sais que je suis mère de famille et que sans mon salaire, j'ai pas un foyer pour mon fils. Voilà. Ouais. J'ai pas un toit pour mon gamin. Ça, il me domine complètement parce que ça m'effraie. Voilà. Mmh. Parce que je sais que je n'ai pas la force de me vendre ailleurs,
de repartir
ouais. pour faire des entretiens, etc. Que j'ai pas cette énergie-là. Et ça me détruit. Ça me détruit. Ouais.
Pendant cette période, vous...
J'ai maigri beaucoup. Ouais. Moi, j'étais constamment triste. Oui, j'ai changé. Oui, j'ai parti. Il y a une partie de moi qui a bien dégusté. Mm-hmm. Je ne dis pas qu'elle est partie, mais on est stressé la journée. La nuit, on ne dort pas. On pense à tout ça. Et on se dit, mais comment je vais pouvoir sortir de tout ça? Et quand est-ce qu'il va comprendre? Et ceci, cela. Et donc, le lendemain, on a encore plus de fatigue et il faut essayer d'avoir de plus en plus d'énergie. Enfin, je ne sais pas comment j'ai pu faire pour continuer, en fait.
Emmanuel connaît Laurence depuis plus de 18 ans. À l'époque, les deux femmes vivaient loin l'une de l'autre et même si Laurence se confiait à sa meilleure amie par téléphone, Emmanuel n'a jamais pris la mesure de l'angoisse dans laquelle elle vivait.
Comme on était loin, déjà physiquement, je ne pouvais pas le voir. Et puis oui, je ne me doutais pas à quel point c'était compliqué. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Je me sentais impuissante.
J'étais morte de trouille, mais j'étais consciente que je... Malheureusement, je n'avais pas la liberté de partir comme je le voulais. Quoi.
Mais je sais.
Je veux dire, poser madame, ça veut dire qu'à la fin du mois, je ne payais pas mon loyer.
Je savais ça.
Ben voilà.
Très affaiblie, Laurence cherche désespérément une solution pour mettre fin à cette situation intenable, jusqu'au jour où il lui vient une idée.
Laurence me disait, de plus en plus, je suis fatiguée. Je n'ai plus d'énergie, je suis fatiguée, je n'en peux plus, je suis usée, je suis fatiguée. Et c'était en boucle, en boucle, en boucle. Et ça devenait obsessionnel.
Mmh. Vous sentiez qu'elle était en train de
sombrer.
De sombrer, ouais.
Oui. Elle me disait, je n'arrive pas à m'occuper de mon enfant, de moins en moins, parce que je n'ai qu'une envie, c'est de... Je pense que tu voulais dormir, sauf que tu n'y arrivais pas. Mmh. Pour se réfugier, pour ne pas y penser. Et ça devenait difficile de gérer le petit. Et là, je me suis dit, ça devient oui. Parce que c'est une superbe maman. Et je me dis, oui, si elle en est au point de me dire qu'elle n'a plus l'énergie de s'occuper de son enfant, là, ça devient vraiment très, 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 très compliqué et dangereux. Et puis, des fois, tu m'appelais et je sentais que tu avais pris quelque chose pour te relaxer, ce qui est normal. Mmh. Et des fois, les propos étaient...
Décousu.
Presque, oui, très décousu. Mm. Je me dis, il n'y a plus de sens dans la conversation.
Et la douleur était tellement intense, en fait. Hein. Puis c'est vrai que je prenais un traitement, tout simplement pour tenir le coup. Mm-hmm. C'est vraiment, tu te sens...
Acculée.
Prisonnière. Mm. C'est comme quelqu'un qui vous séquestre dans une pièce. Vous savez qu'il va venir. Et donc, du coup, c'est soit on est prostré, on peut l'être prostré, et soit on commence à dire... Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce qui pourrait m'aider? Quels sont les instruments que je peux utiliser pour me protéger? Et donc, je me dis, il n'y a qu'un seul truc, et il faut que tu aies le courage de le faire, c'est de l'enregistrer.
Vous en avez parlé?
Non.
Emma, vous alliez faire ça, non?
Non.
Je ne crois pas.
Non, tu ne m'en as pas parlé. Non.
Mm-hmm. Je n'ai pas tout de suite pensé à mon portable. Et c'était avec mon enfant, parce que des fois, on enregistre la voix de son enfant. On se dit, dans quelques années, ça va être amusant, parce qu'on l'oublie, ça évolue, etc. Donc, j'avais des petits enregistrements de mon fils. Et j'ai dit, mais tu as l'outil devant toi et tu ne l'as même pas vu. Et puis, voilà.
Laurence sait qu'elle joue gros, mais parvient à deux reprises à enregistrer les conversations de son supérieur. La seule manière pour elle d'avoir des preuves solides, avant d'aller éventuellement porter plainte.
J'ai dit, le jour où je vais en parler, il n'y aura pas de doute sur ce que je raconte. je voulais m'appuyer sur sa voix. Et donc, c'est pour ça qu'on allait déjeuner ensemble, à midi. Parce que je savais qu'il allait parler et que je me sentais protégée parce qu'il y avait du monde autour de moi. Mais j'étais morte de trouille.
J'ai la retranscription de ces discussions. Lui dit « La seule chose qui viendrait entraver le professionnel, c'est les sentiments. Vous allez me trouver un peu lourd. »
Ouais, c'est clair.
Vous lui répondez, vous savez très bien que je ne vous aime pas. Il vous dit, je sais, je le répète encore une fois. Ce que je veux, c'est que nous ayons une aventure et rien d'autre. Mmh. Il vous dit, si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Mmh. Il faut passer une nuit ensemble. Mmh. Et vous lui répondez enfin, je ne veux même pas y penser. Je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, mais vous ne voulez pas écouter. Ça, ce sont des retranscriptions de la police, hein, je le précise.
C'est le procès verbal.
Le procès verbal de la police. Qu'est-ce qui vous décide à porter plainte ?
Donc, bien les enregistrements, je pars en vacances, je récupère un petit peu. Je reviens, il me touche à la main à nouveau, et là j'ai dit, c'est bon. Si vous faites encore un seul geste, etc., je dénonce tout, j'en parle à tout le monde. Et là, il me rit au nez, en fait. Il ne me croit pas.
Il vous rit au nez ?
Ouais, il est sûr de lui. Il n'a pas peur, mais c'est fou.
Face à cet homme qui reste sourd, Laurence en appelle alors à sa hiérarchie et envoie le jour même un mail au siège de la société pour les mettre au courant. Interrogé, son supérieur retourne la situation. Il nie en bloc, accuse Laurence d'être instable et menace de quitter l'entreprise. Pour régler le problème, la direction fait alors un choix et décide de licencier Laurence.
Finalement, il fait ce qu'il veut quand il veut.
C'est ça. Et si on lui oppose une résistance, il se met en colère et il sort son petit drapeau. Si vous n'êtes pas content, je quitte la boîte. C'était très compliqué pour la société, effectivement, puisque c'est lui qui avait monté tout le réseau en France. Donc, c'est simple. Hein. Vendredi, j'avais un boulot. Le lundi, j'en avais plus. Voilà.
Vous êtes accusé d'être finalement quelqu'un qui essaie de voler la place du manager.
Une histoire.
Et de déstabiliser la société.
Voilà. Je suis licenciée pour faute grave. Je quitte la société et je dis, bon, puisque maintenant, tu es au pied du mur et que tu as... Voilà. Tu as fait ce qu'il fallait faire, et ben va jusqu'au bout des choses, donc c'est-à-dire ben va voir la police.
Alors cette plainte, elle déclenche audition de la police,
confrontation,
voilà, et confrontation avec avec votre agresseur. Mmh. Alors quelle est son attitude, dites-moi.
Il nie, il dit aux policiers qu'en fait je suis très très instable depuis mon divorce et que je fais n'importe quoi et que je dis n'importe quoi. En fait, il essaye de me faire passer pour une hystérique. Et je dis, j'ose leur dire que j'ai des enregistrements.
D'accord.
J'ai de quoi prouver que je ne suis pas folle.
Et les policiers lui font écouter les enregistrements. Et il avoue.
Et il dit, puisque c'est enregistré sur le CD, je ne peux pas lutter.
Et là, quelle est votre réaction ?
Quand je lis, en fait, je... Voilà, je m'écroule, je me mets à pleurer et je respire. Ouais, c'est voilà, tout ce que j'avais gardé, tout ce que j'avais ceinturé pour pas lâcher, c'est bon.
Ça part.
Ouais. Mm-hmm. Ça m'a permis de respirer.
Ça vous a permis de respirer, ouais. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner par un avocat tout au long des confrontations
J'étais seule.
Vous étiez seule ?
Oui, complètement seule. Et ça aussi, c'est le parcours du combattant, parce que très peu d'avocats souhaitent gérer ce genre de dossier, puisqu'ils savent très bien que trois quarts du temps, ils sont classés. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment des avocats qui sont très sensibles à cause des femmes.
Impliqués.
Impliqués, tout à fait. Ouais, ouais. Et j'en ai fait une même, qui m'a carrément proposé de négocier. Moi, je n'arrivais pas à comprendre. Je lui expliquais mon cas. Il me dit, va négocier. Mais négocier quoi ? Je dis, non, je ne suis pas là pour négocier. Je veux un jugement, moi. Je veux qu'il soit condamné. Ce n'est pas pareil. On n'a pas le même discours. Ouais. Et j'ai eu énormément de chance, c'est que dans mes recherches, je suis tombée sur, sous Internet, je suis tombée sur l'association, la VFT. Et ça a été ma carte pour l'espoir.
Grâce à la VFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, Laurence rencontre alors Maître Becker, spécialisé en droit du travail, qui porte l'affaire devant le Conseil des prud'hommes.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bien et vous ?
Dans les cas de harcèlement, l'absence de preuves conduit le plus souvent les victimes à être déboutées de leurs plaintes.
Finalement, mes parents ou qui que ce soit n'ont jamais douté de ce que je disais.
Vous aviez déjà l'assurance, vous, d'être crue par votre entourage, ce qui n'est pas tout à fait le cas toujours des autres femmes.
Laurence, elle, avait en sa possession des preuves irréfutables. Et pourtant, cela n'a pas suffi.
Les femmes, ce dont elles ont peur en permanence, c'est d'être prises pour des menteuses. Mmh. Un juge face à un dossier de harcèlement sexuel, il va se demander si la personnalité de la victime n'est pas pour quelque chose, si elle n'est pas trop prude, si finalement il n'y a pas des blagues qui la font pas rigoler, qui feraient rire d'autres et qu'elle, elle le prend mal.
Si elle est trop rigide.
Si elle est trop rigide. Mmh. Ou au contraire, dans d'autres dossiers, on va voir est-ce qu'elle n'est pas un peu aguicheuse et que finalement, ce n'est pas du harcèlement, mais c'est légitime que l'homme ait voulu l'agresser dans le coin d'un couloir parce qu'elle aurait laissé supposer que c'était possible. Voilà. Mais ce qu'il y avait de particulier dans le dossier de Laurence, c'est qu'il y avait des enregistrements et peu de femmes avaient eu le courage de le faire, de peur d'être prises en flagrant délit d'enregistrement. Malheureusement, alors même que même le droit européen nous permettrait d'utiliser ces enregistrements, ils sont restés, ces juges, sur une vision assez réactionnaire du droit, qui consiste à dire qu'il y a eu une atteinte à l'intimité de cette personne, parce qu'il faut savoir que depuis des années, il y a une jurisprudence qui existe, qui vient dire que quand on vient enregistrer une personne à son insu,
oui,
on est dans un comportement déloyal parce qu'on atteint la vie privée de l'autre. Donc, on nous dit dans les dossiers, elles n'ont pas cette preuve,
ouais,
mais quand elles en ont une directe, on leur dit, ah, vous avez été déloyal. Vous voyez, c'est vraiment une décision qui nous a laissé vraiment perplexes. Mm-hmm. Donc, il faut qu'il y ait un changement législatif sur ce point, c'est évident.
À l'issue du procès, l'homme est innocenté. Laurence se voit même contrainte de lui rembourser 1 000 euros en frais d'avocat. Maître Becker décide alors de faire appel et parallèlement porte l'affaire au pénal. Mais là encore, Laurence se heurte à un mur. Au même moment, en effet, Gérard Ducret, un ancien élu accusé de harcèlement sexuel, trouve une faille dans la loi sur le harcèlement adoptée en janvier 2002 et parvient à la faire abroger.
Au début, tout va bien. Il y a un délit qui existe. Donc, elle porte plainte sur le fondement du délit du harcèlement sexuel qui existe à ce moment-là. Et ce qui devait arriver, arrive. Monsieur Ducret, qui est poursuivi pour des faits de harcèlement sexuel, saisit le Conseil constitutionnel et fait abroger le texte. Tous les dossiers ouverts sur le fondement du texte tombent. Et donc, on n'a pas pu aller au pénal pour faire sanctionner le harceleur, puisqu'il n'y avait plus d'outils juridiques pour pouvoir y aller. Mais il faut, de toute façon, il faut porter plainte. On est sur un changement en ce moment. Je le sens bien. Je sens bien qu'on ne nous regarde pas de la même manière, moi et mes clientes, quand on va plaider. Et de toute façon, si on en arrive là, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont saisies de ces dossiers et qui ont montré que ça n'allait pas. Sans elles, on n'en serait pas là. Moi, je le crois vraiment. Grâce à des femmes comme Laurence et toutes celles qui sont dans mon cabinet en ce moment, elles vont réussir à faire changer les choses.
Finalement, au bout de 5 ans, la société sera condamnée en appel.
Oui. Tout de même, ils vont dire que ce licenciement ne tient pas bien la route, donc elle va avoir des dommages et intérêts pour sanctionner le licenciement. Mais les juges vont refuser de faire le lien avec le harcèlement sexuel subi, puisqu'ils refusent de conserver les preuves qui permettent de l'établir.
Mais finalement, vous n'avez jamais été reconnue comme victime de harcèlement sexuel.
Il y a eu quand même une demi-reconnaissance. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'avoir lu ses aveux. Ça a été un soulagement parce que, voilà, il reconnaissait les faits.
Je n'étais
plus menteuse, une folle. Et moi, c'est une victoire, ma victoire.
Son licenciement abusif ayant finalement été admis en appel par le Conseil des prud'hommes, Laurence a obtenu 40 000 euros de dommages et intérêts. Pour autant, elle n'a jamais été reconnue comme victime de harcèlement sexuel. Toutefois, je sens qu'avoir été entendue et comprise, a été pour elle une façon de regagner sa dignité. Aujourd'hui, après 5 longues années de procédure et 2 séjours en maison de repos, Laurence a retrouvé un travail, un équilibre. Mais elle n'est plus tout à fait la même, en particulier vis-à-vis des hommes.
Je suis moins spontanée. J'ai perdu cette... je suis beaucoup moins spontanée. Ouais. Tant que je ne connais pas la personne, j'ai besoin d'analyser la personne maintenant, d'en faire le tour. Voilà.
Vous vous sentez encore aujourd'hui en insécurité depuis tout ça ?
Je me sens plus fragile si je suis en face d'un personnage que je ne sens pas. Mmh. Puisque je sais que je me sens plus protégée par la société. Donc je sais que la seule qui sera capable de me défendre, c'est moi. Quand la justice ne fait pas son boulot, on est juste dévasté, tout simplement. Aujourd'hui, encore, les femmes tombent les unes après les autres et dans un silence complet. Même si on pense qu'on en parle beaucoup, que les choses vont changer, mais au niveau des lois, c'est pas vrai. Donc il y a un discours et il y a ce qui se passe réellement.
Est-ce que vous regrettez des choses par rapport à tout ce qui s'est passé
Oui, les années qui sont passées, tout simplement, que je n'ai pas vécues. On est en stand-by, on ne vit pas vraiment, on n'est pas dans la réalité. On n'est pas dans la vie. C'est des années volées, tout simplement. Si j'avais eu connaissance dès le début des associations qui nous accompagnent, qui nous appuient, qui nous aident à monter le dossier, parce que tout ça, voilà, c'est pour nous, c'est inconnu. À partir du moment où, si j'avais su tout ça, oui, j'y serais allée beaucoup plus vite parce que je me serais sentie plus armée.
Où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui vous est arrivé ?
Je suis en train d'évacuer mon stress, encore en partie. Mais... Là, en très peu de temps, en fait, ça fait 1 an où, franchement, je me sens mieux et plus ouverte, déjà. Autant les 2 premières années où j'ai repris mon activité professionnelle, c'était compliqué. Autant là, franchement, ça y est. Mes repères, mes sens, etc.
Vous avez à nouveau confiance en vous ?
Confiance, il faut avoir confiance en soi parce que c'est la seule personne et c'est le seul pilier qui vous tient. Donc oui.
Une dernière petite question en fait. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce film ? Dans quel but vous avez accepté de faire ce film ?
Pour les autres, tout simplement. Parce que vraiment, ça touche tous les milieux et toutes les personnes. Et on ne peut pas dire maintenant que c'est juste les femmes qui sont fragiles ou des trucs comme ça. C'est vraiment, ça touche toutes les femmes. Il faut en être conscient. Il suffit de tomber, malheureusement, sur ce genre de personnages. La seule façon de les arrêter, c'est d'en parler.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Davio. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.